Crédit Immobilier de Banque Atlantique, la solution pour financer vos projets immobiliers, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, vos réactions à la décision de Donald Trump d'interdire aux ressortissants de 12 pays d'entrer aux États-Unis. La mesure est en vigueur depuis maintenant 4 heures. Sont notamment concernés 7 pays africains, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, la Libye, la Somalie et le Soudan. Les citoyens de 7 autres pays sont eux frappés par des restrictions dans la délivrance de visas. Là aussi, plusieurs pays africains sont dans le collimateur du président américain, le Burundi, la Sierra Leone et le Togo. Donald Trump, qui dit donc vouloir protéger son pays, les États-Unis, face aux terroristes étrangers, et il reproche aux États figurant sur la liste l'absence d'administration efficace pour assurer un contrôle des voyageurs. Alors que vous inspire cette mesure et quelle doit être désormais la réaction des pays concernés? Vous avez pu suivre sur notre antenne notamment la réaction du Tchad qui applique la réciprocité. On en parle, on en débat ce matin sur RFI, 33 9 693 693 70 et vous continuez évidemment à poster vos commentaires sur les réseaux sociaux. J'en lirai quelques-uns tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vos questions. C'est votre moment privilégié avec la rédaction de RFI. On commence la semaine avec Banam qui nous appelle du Togo. Bonjour Banam.
Bonjour Juan Gomez, bonjour la RFI.
Soyez le bienvenu, merci de nous écouter à Lomé. Vous avez des questions, Banam, sur une affaire digne d'un film d'espionnage entre la Chine et les États-Unis.
Exactement.
On vous écoute.
Je suis intrigué par l'affaire des deux chercheurs que le FBI a arrêtés parce qu'ils auraient introduit un champignon toxique aux États-Unis.
Oui.
Est-ce que le gouvernement américain a des preuves tangibles ou cette affaire est instrumentalisée à des fins politiques?
Oui, alors c'est vrai que cette affaire s'inscrit dans un contexte, on le sait, particulièrement tendu entre Washington et Pékin. Bonjour Claire Broadhurst.
Bonjour à tous.
Correspondante permanente de RFI à Pékin. Voilà donc un couple de chercheurs chinois inculpés par un tribunal américain pour avoir introduit aux États-Unis un champignon nocif pour les récoltes agricoles. Expliquez-nous.
Alors, Zhu Yongliu, le chercheur chinois, est accusé d'avoir tenté de faire entrer clandestinement un échantillon de Fusarium graminearum, un champignon, vous le disiez, pathogène, connu pour s'attaquer aux céréales. Et sa compagne, Yunxin Jian, chercheuse à l'Université du Michigan, aurait facilité son accès au laboratoire où elle travaille. Et les procureurs fédéraux décrivent le champignon comme un pathogène biologique dangereux et vont jusqu'à évoquer un potentiel acte d'agro-terrorisme. Alors, le FBI et le ministère de la Justice évoquent des liens avec le gouvernement chinois, un financement suspect et une appartenance au Parti communiste chinois.
Oui, en tout cas, cette version est largement contredite par les experts agricoles américains.
Tout à fait. Des chercheurs interrogés par nos confrères de Reuters soulignent que ce champignon est déjà présent dans les champs américains depuis plus d'un siècle. Il est bien connu des agriculteurs sous le nom de scab et il fait l'objet de tests systématiques dans les silos à grains. Le risque sanitaire est jugé très faible, sauf en cas d'ingestion massive et régulière. Une généticienne spécialiste du blé affirme même comme arme, ce serait un très très mauvais choix. Donc l'infection artificielle est techniquement difficile et les outils de prévention, comme les fongicides ou les variétés résistantes sont déjà largement utilisées dans l'agriculture américaine.
Et que dit-on, Cléa Broadhurst, à Pékin? Comment se défendent les autorités chinoises?
Alors Pékin reste officiellement discret. L'ambassade de Chine à Washington dit ne pas être au courant du dossier, mais rappelle que la Chine attend de ses ressortissants qu'ils respectent la loi tout en affirmant qu'elle défendra leurs droits légitimes. Alors cette affaire, vous le disiez hein, en introduction, intervient dans un climat tendu. L'administration Trump vient de renforcer les restrictions de visa pour les étudiants chinois et Pékin accuse Washington d'avoir violé un accord commercial fraîchement signé. Et pour plusieurs observateurs chinois, eh bien cette affaire, elle s'inscrit dans un climat d'hostilité croissante contre la présence scientifique chinoise aux États-Unis. Alors c'est vrai que sur le papier, les accusations sont lourdes. On parle de contrebande, fraude, menace agro-terroriste. Mais dans les faits, on parle d'un champignon déjà largement surveillé, contrôlé et difficile à manipuler. Alors entre paranoïa sécuritaire et tension géopolitique, eh bien cette affaire soulève une question plus large. À quel point la science est-elle devenue un champ de bataille entre les deux superpuissances.
À méditer. Merci Claire Broadhurst. Banham, a-t-on répondu à votre question ? Êtes-vous satisfait ?
Je suis satisfait, Ronan. Merci à vous.
Et bonne journée. La liaison téléphone n'était pas très bonne avec Lomé, mais enfin, on a compris l'essentiel. À très vite, Claire Broadhurst, correspondante permanente de RFI à Pékin. 8h16, en temps universel. Autre question. Question maintenant, après la décision des États-Unis de sanctionner des magistrates de la Cour pénale internationale. Bonjour, Souleymane.
Bonjour Juan, bonjour à vos millions d'auditeurs.
Oh merci, vous faites partie de ces nombreux auditeurs fidèles à la Radio Mondiale. Vous êtes à N'Djamena au Tchad, nous vous écoutons.
Washington a imposé des sanctions contre 4 juges de la CPI impliqués dans des procédures qui visent des responsables israéliens et américains. Juan, comment expliquer ces sanctions alors que les Américains ne reconnaissent pas la CPI?
Ah oui.
Est-ce qu'elles peuvent avoir un impact réel sur la Cour?
Oui, c'est vrai que ça peut sembler paradoxal. Bonjour Stéphanie Maupa.
Bonjour. Ouais.
Correspondante de RFI à La Haye, où se trouve le siège de la Cour pénale internationale. Je le disais à l'instant et je comprends la question de Souleymane, c'est paradoxal tout de même. Voilà un pays, les États-Unis, qui ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale et pourtant ils viennent de sanctionner des juges de cette même institution.
Bah oui, hein, tout simplement parce que les États-Unis veulent empêcher cette Cour de mener des enquêtes sur les crimes qui seraient commis par eux-mêmes et par leurs alliés, donc Israël. Hein, et pour cela, Washington a donc créé tout un arsenal, notamment législatif, pour contrer la CPI, dont la possibilité de sanctionner ses élus, juges et procureurs. Alors, l'administration Trump a émis des sanctions contre 2 juges parce qu'ils ont délivré le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, et contre 2 autres juges qui ont permis l'ouverture d'une enquête sur les actes des forces américaines en Afghanistan et de la CIA dans les prisons secrètes. Hein, c'était au début des années 2000. Alors, Washington avait déjà sanctionné le procureur Karim Khan en février, en marge d'une visite de Benjamin Netanyahu à Donald Trump.
Donc, si on comprend bien, Stéphanie Maupa, Israël, comme les États-Unis, estime que la CPI porte atteinte à leur souveraineté et à leur sécurité.
Oui, c'est ce qu'ils disent et c'est précisément aussi pour leur sécurité et leur souveraineté que des États comme la Palestine et l'Afghanistan ont adhéré à la Cour. En faisant cela, les États assurent une forme de protection de leur territoire, hein, puisque vous le savez, hein, la Cour est compétente pour poursuivre les auteurs de crimes commis sur le territoire d'un État lorsqu'il est parti à son traité. C'est le cas de la Palestine et de l'Afghanistan. Alors, il n'empêche que les États-Unis rejettent toujours ces arguments lorsqu'il s'agit de leurs ennemis, même si la Russie n'est pas plus membres de la Cour qu'ils ne le sont. Ils ont quand même soutenu les enquêtes contre Vladimir Poutine. Washington prône tout à fait ouvertement une justice à la carte et criminalise donc le travail des juges et du procureur. Il suffit de regarder la liste des personnes sanctionnées par le Trésor américain. On y trouve des trafiquants de drogue, des cybercriminels et au milieu, 4 juges et un procureur.
Voilà, 4 juges qui ont désormais interdiction d'entrer sur le sol américain. Leurs avoirs aux États-Unis sont gelés. Souleymane nous demande si ces sanctions peuvent avoir un impact réel sur la Cour pénale internationale.
Elles ont déjà un réel impact hein, sur cette Cour. Concrètement, ceux qui sont visés font face à des problèmes quotidiens importants. Hein, les comptes en banque sont fermés, les démarches Internet sont limitées, tout comme leur communication. Et les sanctions visent des individus, mais elles ont aussi des conséquences sur tous ceux qui coopèrent avec eux. Hein. Il y a notamment des ONG qui coopèrent avec le procureur et le bureau du procureur qui ont porté plainte aux États-Unis. Il y a des fonctionnaires qui ont décidé de quitter la Cour de façon préventive hein, au cas où les sanctions pourraient un jour les toucher. Réagissant à ces sanctions, vendredi dernier, la Slovénie, dont est ressortissante l'une des juges sanctionnées, et la Belgique ont annoncé leur intention de saisir la Commission européenne pour qu'elle active la loi de blocage. C'est un texte qui interdit aux opérateurs européens d'obéir à une loi étrangère, donc en l'occurrence une loi américaine, et ça permettrait d'amoindrir un petit peu l'effet des sanctions américaines. Pour l'instant, ces sanctions ne visent que 5 responsables de la Cour, et dans ce dernier train de sanctions, les États-Unis ont bien pris soin de ne viser aucun ressortissant des pays du G7, mais beaucoup craignent à la haie que d'autres sanctions puissent un jour cibler l'institution elle-même, une menace constante qui plane sur la Cour.
Et la CPI, pour sa part, a dénoncé une atteinte à son indépendance. Souleymane, a-t-on répondu à vos questions ? Êtes-vous satisfait ?
5 sur 5, Juan, merci beaucoup.
Remerciez surtout Stéphanie Maupin, correspondante de RFI à La Haye, aux Pays-Bas. Merci à tous les deux, bonne journée. Il est 10h20 ici à Paris. Je vous rappelle que toutes les explications sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio et sur notre site RFI.fr. On repasse au standard, on continue à parler des États-Unis. Décidément, ce matin, toutes les questions ont un lien direct avec une décision prise par Donald Trump. Bonjour Babacar.
Bonjour.
Alors vous écoutez, ça va très bien, et vous-même?
Oui, ça va très bien.
La semaine commence bien à Saint-Louis, au Sénégal. Vous avez appris comme tout le monde et vous avez suivi la rupture fracassante entre Donald Trump et Elon Musk. Depuis jeudi, les deux hommes sont en guerre sur les réseaux sociaux, mais aussi en public. Et vous avez donc des questions à nous poser.
Oui, bonjour. Aux auditeurs de RFI, ma question est de savoir, comme tout le monde l'a constaté, entre une querelle oppose Donald Trump et Elon Musk autour d'un projet de loi budgétaire. Alors, ma question est de savoir pourquoi cette loi a-t-elle déclenché de telles tensions entre ces deux hommes?
Oui, de vraies tensions. Hein. Ils se sont accusés de folie, d'ingratitude. Bonjour Pierre Gervais.
Bonjour.
Professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle, vous publiez aux éditions Hachette Éducation l'histoire des États-Unis de 1860 à nos jours. Rien ne va plus entre les deux hommes et à l'origine de la brouille, Pierre Gervais, il y a donc ce projet de loi budgétaire.
Oui, la loi budgétaire dite « One Big Beautiful Bill », la grosse loi très belle. Et en fait, le contenu de cette loi est multiple, hein, il part dans plusieurs directions, mais essentiellement, il s'agit d'une reconduite et d'une extension des crédits d'impôt et des baisses d'impôt sur les plus riches aux États-Unis. Ça, c'est le motif apparent de la brouille, puisque Musk avait quand même... construit son image politique autour de la réduction des dépenses publiques et de la réduction du déficit. Il a coupé finalement assez peu de dépenses par l'intermédiaire de son département Doge dans le gouvernement, mais c'était quand même très central dans son approche. Et évidemment, la loi en question va ajouter de l'ordre de 3 000, alors les chiffres varient,
oui.
Mais les 2500 à 3 000 milliards de déficit dans les années qui viennent. Donc c'est quand même beaucoup.
Et c'est pour ça qu'Elon Musk qualifie donc ce projet de loi d'abomination.
Abomination, mais il y a un deuxième élément dans la loi qui peut-être l'a touché plus directement, qui était la fin des crédits d'impôt pour tout ce qui était écologique, y compris les véhicules électriques. Et donc là, ça touche directement Tesla, en réalité, puisque dans le code fédéral des impôts est extrêmement complexe, avec toute une série de crédits d'impôt, et l'un de ces crédits d'impôt touchait l'achat de voitures électriques, le remplacement d'anciennes voitures à essence ou à diesel par des voitures électriques. Et là, il se peut que ce soit ça qui ait déclenché Musk. En fait, on ne sait pas exactement ce qu'il l'a déclenché, puisqu'il avait certainement entendu parler de cette loi avant. Il a juré que non. Qu'il l'avait découvert, qu'on ne lui en avait jamais parlé, c'est un petit peu difficile à croire, mais il se peut que cette loi est remplie de clauses, disons, discrètes, qui se livrent à toute une série d'attaques contre les ennemis de Trump, et donc effectivement, il a pu découvrir brusquement que la loi mettait en cause, en réalité, le projet de loi mettait en cause les crédits d'impôt sur les véhicules électriques.
Ouais, Pierre Gervais, quand on entend Donald Trump affirmer qu'Elon Musk est devenu fou, que voilà, il s'envoie des noms d'oiseaux par réseaux sociaux interposés. Est-ce que cette rupture fracassante entre ces deux hommes était prévisible?
Oui, en un sens, c'est quand même deux personnages très peu équilibrés du point de vue à la fois mental et affectif, on pourrait dire. Trump est quand même très un rapport très lointain à la réalité, d'une part, et d'autre part, est âgé et a des gros problèmes psychologiques, on pourrait dire. C'est quelqu'un qui ne se souvient pas le lendemain de ce qu'il a dit la veille, etc. Musk, de notoriété publique, a été accusé de passer sa vie sous différentes drogues, est effectivement très réactif. Les deux hommes sont très tournés vers les réseaux sociaux. Les deux hommes ont un égo très surdimensionné, donc il était prévisible que tôt ou tard il y aurait un conflit. Après, depuis deux jours, le silence règne.
Oui, c'était le week-end.
Donc c'était le week-end, et il y a eu les affaires de Los Angeles aussi, mais Musk vient de de retweeter, re-xer, je ne sais pas comment ça se dit dans la nouvelle formule.
Disons xer.
Donc de re-xer un message de Trump sur son réseau à lui, hein, Truth Social, expliquant que les émeutes de Los Angeles, c'est la faute des démocrates, donc ça pourrait être vu comme un rameau d'olivier d'une certaine façon. Trump est en position de faire des gros dégâts dans l'empire Musk, hein, c'est quand même un empire qui dépend essentiellement en réalité de l'État fédéral et de ses subventions. Musk a toujours fait affaire avec de l'argent public essentiellement, donc Trump pourrait tout à fait se retourner contre Musk et lui créer des ennuis. Peut-être que Musk s'en est rendu compte.
D'où le rétropédalage de Musk. C'est vrai que Trump a menacé de rompre les contrats publics conclus avec les entreprises de Musk, donc effectivement, Elon Musk a dû réfléchir à plusieurs reprises. D'ailleurs, il a effacé plusieurs messages, hein, qu'il avait publiés sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Merci infiniment, Pierre Gervais, professeur de civilisation américaine à l'université Sorbonne Nouvelle, et bonne journée à Babacar, qui nous écoute donc à Saint-Louis. Il nous reste 4 minutes, on a le temps de prendre une dernière question. Ousmane, bonjour.
Bonjour, monsieur Gomez.
Ousmane, à Irvington, c'est du côté de Washington aux États-Unis.
New York.
À New York, bon, très bien, oui. On vous écoute, vous avez des questions concernant le prix du pétrole.
Oui, monsieur Gomez, merci de m'avoir donné la parole. Le prix du baril de pétrole est au plus bas depuis la pandémie de COVID-19, mais j'ai du mal à saisir ce qui se passe réellement, monsieur Gomez. Mm-hmm. Comment expliquer ce phénomène? Pourquoi parle-t-on l'influence américaine?
Alors, c'est vrai que le baril de Brent de la mer du Nord s'échange aux alentours de 65-66 dollars. Bonjour Francis Perrin.
Bonjour.
Directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des problématiques énergétiques. Vous êtes chercheur associé au Policy Center for the New South, qui est un laboratoire d'idées basé au Maroc, à Rabat. Expliquez-nous pourquoi le prix du pétrole est-il si bas. Ousmane faisait référence à la pandémie du Covid-19. On le comprend, mais pourquoi depuis le pétrole n'augmente pas?
Ousmane a fait référence à Donald Trump. Et il a parfaitement raison. Il y a un lien très étroit entre l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, ou le retour plutôt, et la baisse des prix du pétrole. Lorsque Donald Trump arrive au pouvoir, le 20 janvier, le pétrole Brent de la mer du Nord que vous venez d'évoquer était à peu près 75 dollars par baril. Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur 64, 65, 66 dollars par baril, ça dépend des jours, de l'heure et de la minute. En gros, une baisse des prix de l'ordre de 10 dollars depuis le retour de Donald Trump, ce qui n'est pas peu. Alors, trois explications, toutes liées à Trump. Premièrement, Trump veut faire baisser les prix du pétrole. C'est l'une de ses obsessions économiques, et il le dit, et il le dit souvent. Et lorsque le chef d'État de la première puissance mondiale dit qu'il veut faire baisser les prix du pétrole, cela a forcément un impact sur les marchés, parce que c'est les États-Unis, premier producteur mondial de pétrole, premier consommateur mondial de pétrole, première puissance mondiale. Deuxièmement, Trump, tout le monde s'en souvient, a lancé le 2 avril une guerre commerciale. Le 2 avril, c'est ce qu'il a appelé le jour de la libération. Il a annoncé des droits de douane réciproques sur des dizaines de pays à travers le monde. Quelques jours après, il a suspendu ses droits de douane pour donner une chance à la négociation, 3 mois de négociation. Mais quand on voit la courbe des prix du pétrole, le Brent ou d'autres, on s'aperçoit que le 2 avril, après l'annonce de Trump, on a une forte chute des prix du pétrole, très importante, et cela est aussi, bien sûr, Donald Trump. Troisième élément,
en 30
Donald
secondes.
Trump fait pression sur l'OPEP, l'Arabie Saoudite, et ce qu'on appelle l'OPEP+, une coalition de 22 exportateurs de pétrole. Eh bien, ces pays, en tout cas 8 de ces pays, dont les plus gros, Russie, Arabie Saoudite, Irak, etc., ont répondu. Pour le mois de mai, de juin et de juillet, ils ont augmenté leur production 3 fois plus que ce qu'ils avaient prévu auparavant.
Donc, on se retrouve, Francis Perrin, avec une offre plus importante que la demande, une offre de pétrole sur le marché, et donc, par ricochet, cela se répercute, si j'analyse rapidement le contexte, et bien sur le prix, et donc sur les prix à la pompe, et pour nous, consommateurs. On arrive à la fin de cette